I just want to advise everybody listening to us that we are a peacemaker. We just want to do this for everybody to understand what we are trying to do. We are trying to make everybody understand that we are doing the right thing, not the wrong thing. So we are supporting Mumba to fight this thing, to make sure we are passing through the normal procedure, we are passing through the Dublin procedure to the normal procedure. So I just want to thank everybody listening to us. I just want to say thank you and good evening to everybody.
Alors je dis merci et au revoir à toutes les personnes qui nous écoutent et qu'elles comprennent bien la lutte qu'on est en train de mener pour passer en procédure d'asile normale et qu'elles nous soutiennent. Ben, merci beaucoup en tout cas aussi d'avoir répondu à l'appel et puis on va suivre attentivement en fait ce qui se passe avec cette plainte.
Merci, à moi de vous remercier. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Et donc l'émission touche à sa fin. On va laisser l'antenne à l'émission Une heure en Palestine. Et vous pouvez réécouter cette émission à minuit sur Radio Galère. Oui, vous pouvez la télécharger en podcast.
Oui. خدموا بلادكم ربي اللي
Radio Galère 88.4.
بنت الشرقية عيونها روزية حبك من قلبي يا بنتي عيناي حبك من قلبي يا بنتي عيناي بنت الشرقية
Bonjour, nous commençons maintenant l'émission Une heure en Palestine qui est assurée par différentes associations marseillaises. Aujourd'hui c'est Palestine 13 qui assure cette émission, donc je suis avec Bernard.
Bonjour Jean-Yves.
Et donc je suis Jean-Yves, bonjour Bernard, bonjour Sidi qui assure la technique. Donc, l'association Palestine 13 est joignable sur le site www.assopalestine13.org. Il y a une page Facebook aussi, Palestine 13. Et puis, vous pouvez envoyer un mail si vous avez besoin d'informations, asso.palestine13@gmail.com. Voilà, donc aujourd'hui nous renouvelons une expérience que nous avons déjà faite à deux reprises avec Bernard, donc c'est la revue de presse, donc revue de presse qui nous a permis de passer en revue au cours du dernier mois des articles qui sont trouvés donc dans différents journaux. On a essayé d'aller chercher quelque chose d'assez éclectique. Et un document correspondant à ce dont on va parler, plus ce dont on n'aura pas le temps de parler aussi, va se trouver, vous le trouverez sur le site de Palestine 13, donc dans la rubrique revue de presse, donc, et qui dans ce document PDF, vous aurez quelques lignes sur chaque article, plus un lien qui vous permettra d'accéder directement au site du journal qui a parlé de la nouvelle que l'on vous présentera. Donc, on va vous donner déjà quelques nouvelles de Canalamar. Donc, Canalamar, si vous vous souvenez, c'est ce village qu'Israël veut, village de Bédouins qu'Israël veut détruire parce qu'il il est un peu trop au milieu par rapport à leurs objectifs. En fait, il est sur l'axe Jérusalem Vallée du Jourdain, et donc il gêne l'extension des colonies de Jérusalem-Est. Donc voilà, c'est un village qui devait être détruit. À ce jour, il est encore debout, mais on sait qu'Israël a le temps d'attendre. Hein. Voilà, donc sur le site de francepalestine.org, on trouve une interview du chef de la communauté de Canalamar. Donc c'est une traduction du site Middle East Eye. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un résumé parfait de la situation palestinienne, hein, parce que ce chef de la communauté explique donc comment en 1951, ils ont été expulsés du désert du Nakab, et donc ce sont des Bédouins, et aujourd'hui ils vivent dans des cabanes en acier et ils combattent pour leurs droits les plus élémentaires. Donc ils nous parlent de colonisation et démolition. Hein. Ils sont dans un endroit où ils vivent dans des cabanes. Et en 1975, l'armée s'est appropriée la région et l'a déclarée zone militaire fermée pour l'établissement de colonies de peuplement illégal. Donc, au fur et à mesure des démolitions, ils se sont battus, mais bon, voilà. Donc, c'est toujours le problème de la route vers Jérusalem. Le problème de Canalamar est plus grand que le village lui-même. C'est pas un problème de construction ou d'école. En fait, c'est la création d'un État palestinien qui devient impossible à cause de la colonisation. Les droits de l'homme fondamentaux sont complètement bafoués. Donc, et Israël a détruit en fait tous les moyens de subsistance des Bédouins qui se trouvent à l'est de Jérusalem. Voilà. Et par rapport au projet sioniste, donc, c'est aussi Canalamar est représentatif de ce que veut faire le projet sioniste, qui veut donc s'accaparer le maximum de terres et chasser ceux qui habitent sur ces terres-là. Donc voilà, je vous recommande la lecture de cette interview. Sur le site ODIRP, c'est l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Donc, c'est un article qui a été écrit pour le Lancet, qui parle de santé, donc par Rita Giacaman. Donc, c'est la santé des Palestiniens. En fait, elle reproche aux médecins israéliens le ton sur lequel ils parlent des problèmes de santé en Palestine. Parce que, en fait, ils blâment la victime et, en fait, eux disent, bon, ben, on voudrait bien que les Palestiniens jouissent de la meilleure qualité de soins possible, mais ils appellent à une meilleure collaboration entre Palestiniens et Israéliens pour améliorer la santé des Palestiniens, sans vraiment dire et montrer à quel point il y a un déséquilibre entre les deux parties. Il se cache derrière des barrières de progrès, de sécurité, de politique, d'économie, et en fait ils n'expliquent pas du tout d'où vient tout ceci. Et la cause profonde, sans préciser, donc la cause profonde de la mauvaise santé dans la région, en fait c'est l'occupation militaire par Israël des terres palestiniennes qui fait ça. Voilà. Donc, Palestiniens et Israéliens ne sont pas égaux. Sur le site de l'UJFP, un article, une intervention de Pierre Stamboul qui s'est faite le 29 novembre à la soirée organisée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc, il y a un rapport donc de cette intervention de Pierre Stamboul. Peut-on critiquer la politique israélienne? Il parle de l'amalgame et de la confusion entre antisionisme et antisémitisme. Et puis il dit, sans doute peut-on difficilement critiquer Israël parce que ce pays est devenu un laboratoire des technologies de maintien de l'ordre et des armes les plus sophistiquées. Voilà. En fait, Macron doit baver devant la capacité de l'État israélien à réprimer ses opposants, lui qui a tant de mal avec ses gilets jaunes. Donc je vais donner la parole à Bernard qui va nous parler. Vas-y, je t'en prie.
De la reconnaissance de Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël par l'Australie. Alors voilà, reculer sans se dédire ni perdre la face, confronté à cette équation, l'Australie a décidé de reconnaître samedi 15 décembre Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Mais elle ne procédera pas dans l'immédiat au transfert de son ambassade installée à Tel Aviv, comme le Premier ministre Scott Morrison l'avait envisagé à la mi-octobre. Le chef du gouvernement conservateur a finalement opté pour un compromis et n'a pas suivi l'administration Trump. L'Australie reconnaît Jérusalem-Ouest, où se trouve le siège de la Knesset et de nombreuses institutions gouvernementales, comme la capitale d'Israël, a-t-il déclaré. Samedi, avant d'ajouter, nous sommes impatients de transférer notre ambassade lorsqu'elle sera réalisable et après la détermination définitive du statut. Alors voilà, tout est là, le statut. Selon le consensus international en vigueur depuis des décennies, le statut final de la ville doit être déterminé au terme des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Autrement dit, Canberra limite sa reconnaissance à la partie ouest de la ville qu'Israël considère comme sa capitale indivisible. Scott Morrison conditionne le transfert de l'ambassade à la conclusion d'un accord de paix qui paraît plus éloigné que jamais. L'Australie se contentera d'ouvrir à Jérusalem un bureau chargé de la défense et du commerce. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre 2017 et y ont symboliquement déplacé leur mission diplomatique en mai 2018. Depuis, l'autorité palestinienne se refuse à tout contact politique avec Washington. Scott Morrison, lui, a assuré que son pays était prêt à soutenir les aspirations à un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Disons qu'il l'a dit, mais pas trop fort. Mais l'essentiel de son discours a consisté en un message de soutien à l'État hébreu qui serait trop souvent la cible des critiques au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est un expert en politique étrangère qui termine et qui dit « L'annonce du gouvernement aujourd'hui est essentiellement symbolique, mais elle représente un tournant », explique Daniel Flitton, expert en politique étrangère, pour le Lowy Institute. Canberra, depuis des décennies, estimait que le statut final de Jérusalem devait être tranché au terme de négociations de paix israélo-palestinienne. Nous sommes maintenant face à une série d'inconnus en termes de réaction, ajoute l'expert. Oui, mais en termes d'expert, on peut aussi signaler que si ces négociations doivent avoir lieu, elles devraient avoir lieu le plus vite possible. Et surtout, la difficulté nouvelle, c'est que l'autorité palestinienne refuse toute médiation issue des États-Unis.
Alors, très intéressant cet article qui a été tiré du Monde, relativement objectif, hein, on va dire. Si vous êtes intéressé par la façon de présenter certaines informations par certains sites sionistes, eh bien, je vous recommande la lecture de LPH Info, qui termine, qui bien sûr dit on a réagi avec colère, et qui termine son article en disant un signe qui montre une fois de plus que ce n'est pas que la partie orientale de Jérusalem que convoitent les terroristes. Voilà tout ce qu'ils sont capables donc de dire à propos de cette décision de l'Australie. Donc, saison croisée France-Israël, donc vous en avez certainement entendu parler, hein. L'apartheid donc fait un bide. Aujourd'hui, on constate que ces promoteurs qui voulaient faire de cet événement une opération de la Hasbara, donc la propagande de l'État d'Israël, pour blanchir Israël de ses crimes contre le peuple palestinien, eh bien, elle a eu des résultats très très mauvais, à tel point que les Israéliens regrettent d'avoir mis tant d'argent dans cette opération pour zéro succès. On a plus parlé finalement de leur méfait, hein, n'hésitons pas à utiliser le mot, que de leur l'aspect culture, démocratie, etc. Démocratie dont on sait aujourd'hui qu'elle n'existe plus, et égalité, donc. Voilà. Donc la société française n'a pas suivi. Hein. Donc le conseil départemental 44 de Loire-Atlantique a organisé une conférence à la Palestine et donc a soutenu le peuple palestinien. Hein. Donc il y avait une grande soirée le 29 novembre. Vous trouverez sur le site de loireatlantique.fr donc un compte-rendu de tout ceci avec des orateurs très, très importants, hein. Sandrine Mansour, Dominique Vidal, Nathalie Coste, Éléonore de Décoloniseur, Claude Léostic, Pierre Samboul, qui ont, donc vous trouverez sur le site de Loire-Atlantique donc, leurs interventions très intéressantes. Alors parlons un peu des médias, hein. Donc les médias, commençons par Radio France. Radio France vante les productions israéliennes et oublie totalement la colonisation. Hein. Donc j'ai trouvé ça sur le site d'Acrimed, qui est un site qui décrypte et critique l'action des médias. Donc c'était sur France Info, le 22 novembre, donc le correspondant de la radio à Jérusalem a parlé des mérites des avocats. On ne parle pas des personnes, des avocats qui défendent des accusés, mais des fruits israéliens. Problème, l'émission a fait le panégyrique des avocats israéliens, de la capacité des Israéliens à produire certaines choses, mais n'a absolument pas dit que ces avocats étaient cultivés sur des terres qui avaient été volées aux Palestiniens. Donc, très information très partiale. Et surtout que donc des auditeurs ont alerté Radio France sur le problème. Ils ont écrit à la médiatrice. Et puis en fait, la seule réponse qu'ils ont eue, c'était mais nous abordons le problème dans d'autres émissions. Là, c'était une émission juste sur les avocats. Bon, d'accord. Donc on voit où se situe dans quel camp se situent les médias mainstream. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu également un problème avec des médias mainstream. CNN a licencié un de ses journalistes après qu'il ait critiqué la politique israélienne dans un discours à l'ONU. Donc voilà, il a appelé à libérer la Palestine de la rivière jusqu'à la mer. Et donc les pro-israéliens ont réagi et en demandant son éviction, ce qui a été fait. Voilà. Alors je repasse la parole à Bernard.
Alors, je vais vous parler d'un article paru dans L'Orient le Jour et via l'AFP. En Cisjordanie, comme on le sait, Israël détruit les domiciles des présumés meurtriers ou des présumés fauteurs de troubles. Hein. Donc l'armée israélienne a annoncé avoir détruit la maison d'un meurtrier présumé d'un soldat tué en mai lors d'une opération menée de vendredi soir à samedi matin près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Ces atteintes à la famille et à ses proches nous rappellent des méthodes qui sont celles de tous les systèmes totalitaires, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux fauteurs de troubles, mais toute sa famille et tous ses proches sont également visés. Mais c'est également les moyens qu'utilisent les sociétés ou les organisations mafieuses, hein, il faut le rappeler, c'est-à-dire que là, Israël se niche dans un compagnonnage absolument épouvantable entre les dictatures et les mafieux. Pardon. Des centaines de soldats sont entrés vendredi dans le camp de réfugiés d'Al-Ahmari, dans la proche banlieue de Ramallah, siège des institutions de l'autorité palestinienne, qu'ils n'ont quitté que samedi matin, ont rapporté des journalistes de l'AFP. Durant cette opération, des dizaines de Palestiniens ont déclenché un certain nombre d'incidents violents. Les émeutiers ont lancé des pierres en direction des forces israéliennes, qui ont répondu par des moyens anti-émeutes indiqué l'armée dans son communiqué. Selon la même source, la maison visée était celle d'Islam Abu Hamid, arrêté en juin pour le meurtre d'un soldat israélien, touché à la tête le mois précédent par un bloc de pierre lancé depuis un bâtiment du camp d'Al-Amari, durant un précédent raid de l'armée. Il faut dire que l'armée, dans les secteurs cisjordaniens, se croit chez elle. Elle comprend pas que l'occupation soit mal vécue par les Palestiniens. Des correspondants de l'AFP ont pu voir la maison familiale excusez-moi encore, réduite à l'état de ruine après que les forces israéliennes l'ont fait exploser. Des voisins ont indiqué que des centaines de résidents du camp, dont des enfants, avaient reçu l'ordre de quitter leur maison, puis avaient été regroupés sur un terrain de sport durant toute la durée de l'opération. La mère d'Islam Abu Hamid, Latifa, a indiqué à l'AFP que la maison se reconstruirait coûte que coûte. La première fois, elle a été détruite, nous l'avons reconstruite. La deuxième fois, nous l'avons aussi reconstruite. 100 fois, 1000 fois, ils la détruiront et nous la reconstruirons, a-t-elle ajouté. Oui, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que le peuple palestinien se fait massacrer, mais se relève toujours. Israël détruit régulièrement le domicile de Palestiniens accusés d'avoir mené des attaques anti-israéliennes, arguant du caractère dissuasif de la mesure. Des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ces raids comme une punition collective inacceptable. En Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis plus de 50 ans par Israël, 400 000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle avec plus de 2,5 millions de Palestiniens. Souvenons-nous que les occupants nazis, partout où ils étaient contestés, traitaient les résistants de terroristes. Souvenons-nous qu'un pays occupé dont l'occupation est reconnue et désapprouvée par le droit international est dans son droit quand il veut bouter l'occupant hors de chez lui. Cette dernière inclusion est de moi.
Donc nous allons passer un premier morceau de musique, hein. Un chant de liberté venu de Gaza par Osama et Mohamed El Souzi. Donc ce sont des artistes hip-hop de Gaza Revolution Makers. En fait, c'est une chanson qui salue la résilience et la résistance des Palestiniens. Et elle évoque le désir de normalité qui permettrait aux gens de satisfaire leur potentiel personnel et artistique. Voilà.
مشكور على الصبر بده يعيش عيني كفاح ضد الخوف بعد انجاز باسم الموت فبنحيا صبر لنحيا كرامة بس محتاجين على صوت دخينا الحل لنكون الشعب اللي بيركع شي للموت اعطينا الحلم اللي ماله شفينا الحل لنكون الشعب اللي بيركع شي للموت اعطينا الحلم اللي ماله صوت اصرار وصوت كل يوم بعدي بيجي غيره بالعافية بأمل يوم جديد فيش فيه عاصفة نحسد فيه أحلامنا العاجزة نطلق فيه طموحاتنا الصامتة فبدي غني للشعب مقدس عرضه دايما بيدور على الشعب سند جنبه ليحمي ظهره دفن مواهبه باسم القضية فعامل مستقبلي يا شهادة يا حرية فمش بكفي يبكي ليكون بشر فيروح كبش الشهادة ليحقق نصر فالموت أصبح انتصار مش خسارة فبعد النفس مقابل يحيى الكرامة أرواحنا ما بتفلس من تضحية لحرية أصلا نقامة للوطن مش للوطنجية بنعيش ثورة ليكون بلد حر نبني فيها العودة حتى نعيش الموت شدينا الحل لنكون الشعب اللي بيركع شي للموت أعطينا الحلم اللي ما له صوت إصرار وصوت شدينا الحل لنكون الشعب اللي بيركع شي للموت أعطينا الحلم اللي ما له صوت إصرار وصوت ما بنرفع الإيدين
قلنا هز الخصر احنا بنرفع الايدين لإشارة النصر إن ولدنا لنفدي دمنا ونرد ربنا نوفى عهدا لدنا وأرضا نحن عرضا بالكرامة والصبر يا أخي مبروك صبرك حقق انتصار يا أخي مبروك مناعة الخوف من صوت الانفجار عنا العزيمة والدفاع ما بيموتوا فينا عنا الصمود حقق نجاح من قلب علينا عنا أمل في اليوم وبكرة لنحقق كل هدف وفكرة باتجاه كل حلم وذكرى ومنينا ما حدا فينا استنى حدا يمن علينا أو يحمينا ربنا الوحيد الحامي واللي حاسس فينا كسرنا حاجز الخوف على أرواحنا اخترنا الكرامة أول ما بنقتل شهدائنا بنعيش حياتنا أحرار مش عبيد وأنا صاحب كرامة بفخر على كل شهيد
جدينا الحلة نكون الشعب اللي بيركعش للموت أعطينا الحلم اللي ما له صوت إزرار وصوت جدينا الحلة نكون الشعب اللي بيركعش للموت أعطينا الحلم اللي ما له صوت إزرار وصوت
لسه إيماننا موجود ما اخترنا نهاجر قاومنا الذل نوح عندنا الأحلام فينا قدر لبكرة تصير اتغير المر لحر تحمل معنى التحرير
Donc, nous continuons avec cette revue de presse. Sur francepalestine.org, des universitaires et artistes israéliens mettent en garde contre l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est un sujet qui revient fréquemment sur la table, du fait que Israël essaie de faire en sorte que cette assimilation soit prise en compte par le plus possible de gens et de façon à réduire la critique de leur action. Donc c'est une lettre ouverte qui émane de 35 Israéliens, parmi lesquels des universitaires spécialistes de l'histoire juive et des lauréats du prix d'Israël. Elle a été publiée par les médias autrichiens pour appeler à faire la distinction entre la légitime critique d'Israël et l'antisémitisme. Donc la lettre a été publiée avant une rencontre internationale à Vienne sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Il me semble que c'est lors de cette rencontre que Netanyahou avait posé avec le président ou le premier ministre, je ne sais pas comment on appelle ça, autrichien, qui est donc un pays relativement antisémite. Sur le site de RFI, opération secrète ratée à Gaza. Donc l'armée israélienne met en garde, elle a lancé une mise en garde aux médias et au public au sujet de la diffusion d'informations sur une opération secrète de l'armée israélienne menée le 11 novembre dernier. C'est une opération qui avait mal tourné. Les Israéliens déguisés en Palestiniens s'étaient fait repérer. Et ça avait abouti à ce que le Hamas lance des roquettes sur Israël. Israël avait répondu, etc. Et la situation s'était calmée in extremis. Sur toujours le site de RFI, Donc, en fait, il y a une relativement bonne nouvelle, hein, on va dire. C'est parmi les mauvaises nouvelles, c'est la moins mauvaise, on va dire. L'UNRWA est en train de surmonter sa crise financière, hein, puisque donc les États-Unis avaient décidé en septembre 2018 d'arrêter de financer l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, alors qu'ils étaient le contributeur principal. En fait, l'objectif des États-Unis, c'est de dire si l'UNRWA n'existe plus, on va arrêter de parler des réfugiés. Donc, les réfugiés, ça n'existe plus. Donc, arrêtons. Hein, voilà. Sauf que, voilà, aujourd'hui, l'UNRWA a réussi à ramener son déficit à 21 millions de dollars, a annoncé lundi 19 son chef Pierre Krahenbuhl. Donc il manque quand même 21 millions de dollars sur le budget, 21 millions de dollars qui peuvent être utiles pour les écoles, puisque l'UNRWA s'occupe de l'ensemble des besoins des réfugiés palestiniens. Donc Israël continue à faire de la politique et du lobbyisme auprès de l'Afrique, hein, puisqu'ils aimeraient bien avoir un siège dans l'Union africaine, alors qu'aujourd'hui, donc, ils n'y sont pas encore arrivés. Et par contre, ils ont obtenu le soutien du Ghana, et ce qui leur permettrait peut-être d'avoir un siège d'observateur. En fait, leur seul but, c'est de contrer l'influence des Palestiniens au sein de cet organe continental, sur le continent africain. Donc voilà, le Ghana soutient Israël. Un petit mot sur la sociologie. Hein. On constate en Israël, dans les universités, une ségrégation croissante des sexes. Donc c'est le quotidien israélien Haaretz qui s'émeut des décisions du ministère israélien de l'éducation supérieure, qui va de plus en plus loin dans la séparation des hommes et des femmes au sein des universités. Bien entendu, tout ça pour répondre aux exigences des juifs ultra-orthodoxes. Donc sur Mediapart, dans les blogs de Mediapart, un blog de Dominique Vidal, donc, où il s'adresse à Francis Khalifa, dont il demande la démission du CRIF. Donc, c'est le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui se vante d'avoir dialogué à Vienne avec le chancelier autrichien Sébastien Kurz. Voilà, j'ai retrouvé c'est le chancelier qu'il y a en Autriche. Sauf qu'il oublie de préciser que celui a intégré à son gouvernement 6 ministres du parti néo-nazi FPO. Et en fait, Dominique Vidal dit « On ne peut pas à la fois parler au nom des Juifs de France et traiter avec les héritiers du Troisième Reich. »
Oui, mais c'est très intéressant d'ailleurs de voir ce rapprochement assez effectif entre tout ce qui est l'extrême droite européenne et donc en Autriche des néo-nazis et Israël. Quoi. Je crois que là, il y a une convergence absolument redoutable, historiquement impensable, mais qui est quand même réel. Donc,
les antisémites sont les meilleurs soutiens des sionistes. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà.
En gros, c'est ça.
Voilà. C'est effectivement un peu ce qui se passe aux États-Unis aussi avec les évangélistes. Voilà. Ben, je peux te passer la parole.
Oui, alors moi, je voudrais parler d'un document trouvé chez Orient 21 sur l'histoire d'un documentaire interdit sur le lobby pro-israélien aux États-Unis. Le Monde diplomatique a publié un article à propos d'une enquête réalisée par la chaîne Al Jazeera, propriété du Qatar, sur l'action du lobby pro-israélien aux États-Unis. Sur ces actions, l'Orient 21 en a publié les versions arabes et anglaises. Ce documentaire, réalisé notamment grâce à un journaliste infiltré, devait être diffusé au début de l'année 2018. Il ne l'a finalement pas été, suite à un accord entre le gouvernement du Qatar, et c'est là que ça vaut son pesant de cacahuètes, et une partie du lobby pro-israélien qui a, en échange, accepté d'adopter une attitude neutre dans le conflit entre l'Arabie saoudite et le Petit Émirat. Ayant eu accès au documentaire, Le Monde diplomatique et Orient 21 en avaient divulgué les éléments essentiels. Orient 21 a décidé, avec Electronic Intifada aux États-Unis et Al-Akbar au Liban, de rendre public ce documentaire. Il y va du droit à l'information, car cette enquête, après celle réalisée par la même chaîne sur le lobby au Royaume-Uni, pose des questions de fond. Dans une démocratie, a-t-on le droit d'espionner les citoyens sur la base de leurs convictions ? Est-il normal que le gouvernement israélien participe et orchestre ses campagnes sur le sol de ces pays dits alliés ? Ce vendredi, donc, le vendredi 2 novembre, les deux premiers épisodes du documentaire, sur les quatre, ont été accessibles avec des sous-titres français. Les prochains épisodes suivront dans les semaines à venir. Maintenant, autre chose qui vient de Ouma.com, pardon, la célèbre actrice israélo-américaine Nathalie Portman en remet une couche en dénonçant, dans une interview au quotidien de langue arabe Al-Quds Al-Arabi, le racisme de la nouvelle loi israélienne sur l'état-nation du peuple juif. Adoptée l'été dernier, la loi inscrit en effet dans le marbre le caractère raciste de l'État d'Israël, censé être celui de tous ses citoyens lors de sa fondation, mais jamais respecté dans les faits 70 ans plus tard. La loi stipule ainsi qu'Israël est l'État-nation du peuple juif, lequel a un droit exclusif à l'autodétermination. Pour que les choses soient encore plus claires, les législateurs ont en même temps aboli le statut de l'arabe comme langue officielle, aux côtés de l'hébreu qui prévalait jusqu'alors. Et la célèbre actrice déclare et continue, Israël a été fondé il y a exactement 70 ans en tant que refuge pour les survivants du génocide. Mais les mauvais traitements infligés par les atrocités que l'on observe aujourd'hui ne correspondent tout simplement pas à ce que sont, pour moi, les valeurs juives. Et parce que je suis soucieuse de l'avenir d'Israël, il m'appartient de m'élever contre la violence, la corruption, les inégalités et les abus de pouvoir. Elle ajoute, sans être partisane de la campagne BTS, qui critique parallèlement dans l'interview la présidence Trump, elle s'était déjà attiré les foudres en avril dernier en refusant de se déplacer en Israël pour y recevoir une distinction, le Genesis Prize, doté, tenez-vous bien, $1 million. Le développement de la situation en Israël affecte Nathalie au plus haut point et elle n'a aucune envie de participer à un événement public dans le pays, ajoute son agent. Voilà, cette interview a été réalisée à l'occasion de la sortie de son nouveau film, Vox Lux, la voix de la lumière, à Londres.
Bon, effectivement, elle dit « Je suis soucieuse de l'avenir d'Israël. Il m'appartient donc de m'élever contre la violence, la corruption, les inégalités, les abus de pouvoir. » Donc elle critique bien le gouvernement israélien. La prochaine étape, je suppose, que c'est soutenir la lutte pour les droits du peuple palestinien. On n'en est pas encore là, mais espérons-le. Hein. Voilà. Elle montre à quel point l'attitude d'Israël aujourd'hui obère son avenir, puisque elle dit « Je suis soucieuse de l'avenir d'Israël ». Voilà. Donc on va passer à la deuxième pause musicale. Deuxième pause musicale, donc il s'agit de Bob Marley, que je retrouve, voilà, Bob Marley, donc qui nous parle de la guerre, et j'ai trouvé dans ce chant de Bob Marley des strophes qui peuvent s'appliquer à la situation en Palestine, hein. Jusqu'à ce que la philosophie qui tient une race supérieure et une autre inférieure soit finalement et définitivement discréditée et abandonnée. On sait qu'en Israël il y a du racisme. C'est jusqu'à ce jour le rêve d'une paix durable, la citoyenneté mondiale, la règle de la morale internationale, que Israël ne respecte pas, ne restera qu'une illusion éphémère, recherchée mais jamais atteinte. Là, la guerre est partout, la guerre. Voilà, donc je laisse la parole à Bob Marley.
Which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. War!
Yeah. philosopher, which old one race, superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, and until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it's war. But until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. It's your war in the east, war in the west, war up north, war down south. Yeah, it is the war of war. Boy, a romance of war. Yes, it is the war of war. Boy, a romance of war. And until the ignoble and unhurried regime that told our brothers in Zimbabwe, in a Zimbabwe now, anywhere in Africa, is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is everywhere, far in the east, come on, far in the west, live it out, far up north, far down south. It is a war, boy, a romance of war. Yes, it is a war, boy, a romance of war. Cause until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is war. It's a war. 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 And it's a war. Oy, oy, a war. Hey, war. Oy, oy, a war. Mm-hmm, a war. Oy, oy. Will not know peace, and we Africans will fight, we find it necessary. Tell them all. We know we shall win, you know, we are confident in the victory. Come on, Mac, of good over evil, yeah, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is everywhere.
our woes. Come on and speak of love,
signing off with not your foes.
Hey! We don't need no trouble.
Donc nous reprenons notre revue de presse. Sur palestineplus.fr, c'est un site donc, sur lequel j'ai trouvé une interview d'Ilan Pappé, dans laquelle il démythifie les 10 mythes d'Israël. Donc en fait, dans lequel il dit « Toute tentative de résoudre un conflit doit s'attaquer aux racines de celui-ci ». Donc il va chercher les racines, et les 10 mythes d'Israël dont il parle, mythe M-Y-T-H-E bien sûr, avec un S. Premier mythe, la Palestine était une terre sans peuple, prête à accueillir un peuple sans terre, c'est faux. Les Palestiniens, deuxième mythe, les Palestiniens ont réagi à l'arrivée des premiers colons juifs par une campagne de terreur avant même la création de l'État d'Israël. C'est aussi faux. Les mensonges entourant la création de l'État d'Israël, en particulier sur l'épuration ethnique. Donc, quatrième mythe, avant 1967, Israël était un État bienveillant et démocratique. Les Palestiniens qui étaient restés sur place n'en disent pas autant. Cinquième mythe, le seul objectif du combat mené par les Palestiniens est de semer la terreur. On se demande qui sème la terreur. Sixième mythe, Israël s'est vu obligé d'occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza en 67 et de garder ces territoires jusqu'à ce que les Palestiniens soient disposés à faire la paix. On imagine à quel point ça peut être faux. Septième mythe, Israël avait l'intention d'occuper pacifiquement la Palestine mais a été forcé de répondre à la violence des Palestiniens. Huitième mythe, les accords d'Oslo sont le reflet d'une volonté de paix des deux parties. Neuvième mythe, la deuxième intifada était une campagne de terreur orchestrée par Arafat. Et dixième mythe, le règlement du conflit israélo-palestinien est proche. Lisez cet article qui démythifie et qui explique en détail pourquoi tout ça, c'est vraiment de la propagande Hasbara. Alors, on voit comment réagit la société israélienne aussi. Quand on lit dans Euro-Palestine un article qui dit que la Cour suprême israélienne élargit le droit de torturer. Donc, après avoir partiellement prohibé la torture, il n'en faut pas trop quand même, sans que cela change quelque chose aux pratiques des soldats et des policiers, la Cour suprême israélienne vient de tomber le masque en élargissant le cadre légal de ces traitements barbares. Donc on sait que même des enfants sont emprisonnés en Israël, des enfants palestiniens, et torturés, interrogés sans leurs parents, sans avocats, etc. Voilà. Toujours dans le domaine de la colonisation, Israël donc est le spécialiste de la confiscation des terres. Et là, donc sur le site de La Croix, on trouve un article qui dit que l'armée israélienne confisque des terrains du patriarcat latin. Patriarcat latin de Jérusalem qui s'est opposé à l'appropriation par l'armée israélienne de 25 hectares de terrain qui lui appartenaient. C'est dans la vallée du Jourdain. On sait que c'est une plaine très fertile et que dans laquelle les Israéliens donc font pousser on a parlé des avocats tout à l'heure, des dattes, etc., qu'il ne faut surtout pas acheter puisque tout ça est cultivé sur des terres qui ont été volées. Voilà. Je repasse la parole à Bernard.
Alors moi, je vais évoquer, via l'AFP, une controverse qui a été assez vive fin novembre, puisque la France a décerné le prix des droits de l'homme à deux ONG, israéliennes et palestiniennes. Évidemment, il fallait s'y attendre, ça crée les événements habituels. La ministre, Madame Belloubet, a cédé la ministre de la Justice qui devait présider le lundi 10 décembre la remise du prix des droits de l'homme doté par les services du Premier ministre Édouard Philippe, composé de membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le jury a décidé d'honorer 5 lauréats cette année. L'un des prix est une récompense commune à 2 ONG israéliennes et palestiniennes, B'Tselem et l'association Al-Haq. Une façon de saluer leur travail de documentation de l'occupation dans un environnement hostile, et ce, le jour de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée il y a 70 ans. Or, la garde des Sceaux a décidé en fin de semaine dernière de ne pas participer à la cérémonie, contrairement à ce que la CNCDH avait annoncé le 28 novembre. Son agenda ne lui permettait pas de regarder ce qui se passe actuellement, se justifie-t-on dans son entourage en référence aux réunions de crise autour d'Emmanuel Macron ce lundi. Mais aucun autre membre du gouvernement n'a été dépêché à sa place. C'est finalement François Croquette, ambassadeur pour les droits de l'homme, qui a remis les prix après des jours orageux de négociations en coulisses. L'affaire est d'autant plus embarrassante que les deux ONG sont connues et appréciées de longue date par les diplomates français et leurs collègues européens chargés des territoires palestiniens. Ce revirement de Mme Belloubet a coïncidé avec une campagne de pression exercée en Israël par des responsables de la droite et en France par les organisations juives. Donc on peut imaginer que le député des territoires étrangers, Meir Habib, qui est élu essentiellement par les Français de l'étranger qui vivent en Israël, et par le CRIF, toujours le même, la ministre a reculé, le gouvernement entier a reculé. Cette absence à cette cérémonie est en soi exceptionnelle, car elle a été seulement constatée 2 fois en 30 années. Et j'en profite pour relancer un appel à la séparation du CRIF et de l'État.
Merci. Sur le site de l'AFPS, il y a un appel qui concerne une attaque très grave contre notre liberté d'expression. Et donc l'appel consiste à intervenir auprès de notre président Emmanuel Macron de façon à ce que à ce qu'il intervienne. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore, je ne sais pas où ça en est, mais donc il y a une réunion qui est prévue des chefs d'État de l'Union européenne. Donc le Conseil européen qui réunit, je pense que c'est demain et après-demain, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qui doit donner son aval à une déclaration pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme et la protection des communautés juives en Europe. Ce qui part d'un bon sentiment, pourquoi pas, hein. Sauf que sous l'effet de la pression d'Israël et de ses relais en France, donc Bernard a parlé du CRIF et de Meir Habib, hein. Donc sous l'effet de ces pressions, en fait, la communauté européenne s'apprête à adopter la définition IHRA de l'antisémitisme. Alors, j'en ai déjà parlé, mais IHRA, c'est donc un organisme qui s'occupe de la mémoire de l'Holocauste et qui a donné une définition relativement consensuelle de l'antisémitisme, sauf que si elle s'était arrêtée là, pourquoi pas, mais elle, en fait, cette définition est illustrée par des exemples, et dans ces exemples il est cité à plusieurs reprises l'État d'Israël de façon à assimiler antisémitisme avec toute critique visant l'État d'Israël et de sa politique. Donc la mise en œuvre de cette définition aboutirait à mettre en danger la liberté d'expression et de réunion, hein. On a vu depuis 2016 au Royaume-Uni, ça pose un certain nombre de problèmes, le gouvernement ayant adopté cette définition en 2016. Donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont il a été question tout à l'heure, a pris clairement position au nom de l'Université de la lutte contre le racisme et du caractère très, très problématique de cette définition et des exemples associés. Voilà. Donc, sous la pression du gouvernement israélien. Donc, vous trouverez un appel avec possibilité d'écrire à Emmanuel Macron. Hein. Je vous rappelle qu'il suffit de taper sous votre explorateur écrire au président et vous tomberez sur le site. Il vous suffit donc de dire ce que vous avez à dire au président de la République.
Alors je laisse maintenant parler. Une information qui vient de Man News, qui est de Bethléem, sur un point de vue de Netanyahou qui a déclaré « Aucune colonie ne sera démantelée tant que je serai Premier ministre ». Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a réitéré mardi l'intention de son gouvernement de poursuivre les activités de colonisation en Cisjordanie, affirmant, alors c'est moi qui ajoute ça, la confusion est très forte hein, en Israël entre la légende et l'histoire. Et là, on en a encore la preuve. Il suffit d'écouter. Ici, nos ancêtres ont vécu il y a des milliers d'années. Et ce qui a été restauré restera à jamais. Netanyahou a également souligné son refus de démanteler toute colonie de la Cisjordanie tant qu'il resterait Premier ministre. Netanyahou, lors de la cérémonie d'ouverture d'une rue proche de Jabba, à l'est de Ramallah, des noms comme Jifa Benyamin, Makmas, Ofra ou Anatot nous transportent directement dans les jours, de la Torah. Ces lieux sont au cœur de notre histoire, il y a 3000 ans, à l'époque du royaume de Saül, puis du royaume de Judée. Ces lieux proviennent directement de la Torah, du cœur de notre pays, et nous continuerons à y promouvoir la colonisation. Netanyahou faisait référence à la zone de Cisjordanie, parce que vous souvenez que sur les cartes israéliennes, il n'y a plus rien hein, sur la Cisjordanie. Il y a Judée-Samarie, c'est tout. Hein. Nos ancêtres ont marché ici, dans ces vallées, ces montagnes, les scènes les plus dramatiques de l'histoire de notre peuple et de l'humanité qui se sont déroulées ici. Nous avons donc relié notre passé à notre avenir, notre génération à un droit gigantesque. Que et la génération de nos parents ont repris ce qui a été perdu et nous promettons ce qui a été restauré restera pour les générations et les générations pour toujours et garantira l'immortalité d'Israël. En faisant référence à deux Palestiniens qui ont été abattus il y a 2 jours près de la colonie de Ofra à l'est de Ramallah, Netanyahou a confirmé son intention de maintenir les colons en Cisjordanie. Alors voilà, là on est confronté, je le répète, hein, à une confusion entre l'histoire et la légende que les Israéliens adoptent. Pour tout dire, il faut le répéter, leur cadastre, c'est la Bible. Et Netanyahou ajoute « Ils voudront nous déraciner d'ici, mais ils ne le feront pas tant que je serai Premier ministre, ainsi de suite. Pas un seul juif ne sera déraciné de son domicile. Non seulement, personne ne sera déraciné de sa maison, mais nous en construirons davantage. » C'est dire si la colonisation n'est pas prête de s'arrêter. Alors, les Palestiniens exigent par contre la fin des colonies et l'instauration d'un État indépendant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, rappelons-le. Selon les estimations israéliennes, alors là, on tombe sur un chiffre qui est différent de celui que je vous ai donné tout à l'heure, mais on peut imaginer que les meilleurs comptables sont les Israéliens eux-mêmes. Et donc, eux, ils trouvent 650 000 colons en Cisjordanie. Et c'est vrai qu'ils y ajoutent ceux qui se sont installés illégalement à Jérusalem-Est.
Alors c'est toujours intéressant de lire ce genre de choses, surtout quand on a en tête le livre de Shlomo Sand, « Comment le peuple juif fut inventé », où il explique en fait la conclusion que j'en ai retenue en tout cas, c'est que aujourd'hui les Palestiniens qui vivent en Palestine et ceux qui sont réfugiés, ce sont les descendants de ceux qui habitaient en Judée-Samarie, pour utiliser la nomenclature israélienne, à l'époque donc à la fin de l'ère précédente, avant le Christ, et que ceux qui aujourd'hui et ceux